Chapitre 70. Sur une colline qui dominait le fleuve Chasse-Corbeau, Maxime avait annexé une maison idéale pour se reposer et se cacher. Depuis son départ précipité de Tarada, il avait couvert beaucoup de distance, toujours en brouillant sa piste. Fatigué de l'eau, il avait abandonné son petit bateau sur la plage d'un autre village de pêcheurs, puis continué son chemin à pied. Au bord du fleuve, véritable source de vie et de prospérité, des dizaines de villes et de villages se dressaient. Mais le sorcier en chef n'avait aucune envie de vivre dans une agglomération, pour l'instant en tout cas. À long terme, il entendait bâtir un nouvel empire plus glorieux qu'Ildakar au temps de sa splendeur, mais il n'y avait aucune urgence. Pour un sorcier tel que lui, le temps n'était jamais un problème. Sauf quand il pêchait par précipitation, comme à Tarada. Pour voir enfin s'écrouler l'ennuyeuse Ildakar, sans doute déjà rasée par les soldats de pierre, il avait rongé son frein pendant près de 1000 ans. Espérer créer une ville comparable en 1 ou 2 ans était irréaliste. Au-dessus d'un village appelé Ruisseau de Gand, Maxime avait nidifié dans la maison d'une famille, se résignant à connaître quelques mois de paisible stagnation. Assez spacieuse, la demeure offrait une salle commune équipée d'une belle cheminée, une chambre parentale isolée par un rideau de cuir et une petite pièce où dormaient les 3 enfants. Dans la cheminée, on avait prévu un crochet de fer pour y suspendre un chaudron et une broche, ou faire rôtir les poissons achetés au marché ou le petit gibier attrapé dans la forêt. Dans le fumoir derrière la demeure, Maxime avait trouvé des saucisses de venaison en cours de séchage. Partout dans la cour, des volailles fouillaient le sol en quête de vers de terre et d'autres insectes, une réserve de viande d'autant plus pratique qu'on n'avait pas besoin d'en prendre soin. Quand il aurait construit sa mégalopole, Maxime comptait bien avoir à son service des gardes en uniforme, des serviteurs attentionnés, des masseurs capables de détendre ses muscles après le bain et des jeunes femmes expertes dans l'art de le divertir au lit. Travaillant exclusivement pour lui, des couturières lui confectionneraient les plus beaux atours tandis que des joailliers s'échineraient à lui proposer de magnifiques bijoux. Mais ça, ce serait après. Bref, dans longtemps. Pour le moment, Ildakar lui manquait plus qu'il l'aurait cru. En attendant l'opulence, la maison conviendrait. Après tant de bruit et de fureur, le silence de la forêt serait bienvenu au moins pendant un temps. Dans la cour, les anciens propriétaires avaient abattu les arbres, ne laissant que des souches. Près de celles qui servaient de billots à couper le bois, un tas de bûches promettait aux sorciers des soirées douillettes malgré les rigueurs du climat. Quand il alla débiter quelques-unes de ces bûches pour alimenter le foyer, Maxime négligea la hache plantée dans le billot et recourut à son don pour se fournir rapidement en petit bois. Avec l'aide de sa magie, il pourrait vivre en autarcie dans son nouveau fief. Après des jours à avancer dans les marécages, traqué par des prédateurs et cette folle furieuse d'Adessa, il se réjouissait d'avoir de nouveau un refuge. Hélas, la Mauracite ne renoncerait pas, il le savait. De la démence, puisqu'elle n'avait aucune chance contre un sorcier en chef. Ses runes le protégeraient du pouvoir, certes, mais de quelle arme disposerait-elle face à un adversaire tel que lui? Cela dit, lors de leurs affrontements, elle lui avait paru étonnamment forte. D'où lui venait cette puissance? Si Thora avait réussi à la doter d'une étincelle de don, ça compliquerait tout. En entrant dans la demeure silencieuse, Maxime tira sur ce qui était jadis la chemise du père. Le pantalon étant trop large, il le resserrerait à la taille avec une corde, un accessoire de plus à son déguisement, au fond. Ses vêtements d'Ildakar, sales et en lambeaux, étaient irrécupérables même avec l'aide du don. Contraint de fuir Tarada à la hâte, il n'avait pas pu emporter de change. Aujourd'hui, il ne ressemblait plus à un mendiant et c'était déjà ça. Grâce à un simple sortilège de séduction, les gens de Ruisseau de Gand lui donnaient tout ce qu'il lui fallait. Du coup, il n'avait plus qu'à rester tranquille, comme un ours qui hiberne, jusqu'à ce qu'il ait mis au point un plan de conquête du monde cohérent. Le seul caillou dans sa chaussure, c'était la solitude. Après des siècles à Ildakar, il peinait à s'y habituer. Tous les 2 ou 3 jours, il s'offrait une petite virée en ville. Anonyme dans sa tenue sans ornement, il passait pour un des nombreux bûcherons, fermiers ou trappeurs qui vivaient dans la forêt. Client assidu de l'auberge, il adorait la tourte au poisson-chat. Pour payer, il dépensait les pièces trouvées dans une jarre au fond d'une armoire ou lançait un sort d'oubli, histoire de s'en aller sans se soucier de la note. Question boisson, c'était beaucoup moins glorieux. La bière était amère et le vin, livré par des barges, ne méritait même pas le nom de piquette. Et quand il avait commandé du vin de 100 d'île Dakar, l'aubergiste moqueur s'était écrié qu'on n'était pas à la cour d'un roi ici. S'il voulait réussir sa nouvelle vie, Maxime devait absolument apprendre à connaître les humbles, en d'autres termes, les idiots dépourvus de dons qui trimaient dur pour survivre. Sous l'identité de masque miroir, il affirmait comprendre le fardeau qui pesait sur les épaules des classes inférieures. C'était faux, bien entendu. Mais il avait vite su quel mot prononcer pour enflammer les gens et les faire rêver. La carotte qui marchait à tous les coups, c'était la liberté. Avec les miteux de Ruisseau de Gand, ce serait compliqué parce qu'ils étaient déjà libres et persuadés que leur pitoyable existence ne s'améliorerait jamais. Une fois rassasié d'humaine présence, le sorcier en chef retournait dans son fief isolé où il recommençait à rêver d'un avenir glorieux. Un après-midi, accablé d'ennui, il sortit de la maison, provoquant une belle panique parmi les volailles. Encore des imbéciles, celles-là. Pourquoi aurait-il fait un massacre alors qu'il suffisait de tordre un coup de ci, de là? Traversant le potager, il passa devant les buissons de baies rouges sans s'arrêter pour en cueillir. Avec tout ça, il avait assez de nourriture pour tenir un moment, mais l'attente, malgré ses bonnes résolutions, lui pesait de plus en plus. Les cinq statues étaient toujours à quelques dizaines de pas du jardin, comme depuis le lendemain de son arrivée. Le père, un banal fermier, avait dû être costaud de son vivant et la mère, encore très jeune, n'avait rien d'une beauté. Ses cheveux minéraux tirés en arrière et couverts par un foulard, elle portait une jupe grossière distendue par son ventre de femme enceinte. Figée en pleine course, elle tenait la main d'un gamin d'environ 8 ans. Son mari, lui, serrait le poignet de la cadette de la famille, une fillette de quelques 5 ans. L'aîné, un garçon qui devait en avoir 11, courait devant les autres. Terrifiés dès qu'ils avaient compris combien Maxime était dangereux, ces imbéciles avaient tenté de fuir. Les suivant via la porte de derrière, il les avait regardés courir un moment avant de lancer son sort de pétrification, sans sommation bien entendu. Aussitôt, les fugitifs s'étaient figés sur une foulée qu'ils ne termineraient jamais. Le premier jour, ces gens avaient accueilli Maxime à bras ouverts, lui offrant le gîte et le couvert. Trop fatigués pour la jouer fine, ils les avaient forcés à lui obéir, éveillant leur méfiance. En dépassant les statues, le sorcier en chef salua le père et la mère dont les yeux ne le voyaient pas et ne le verraient plus jamais. Au sommet de la colline, Maxime se percha sur un rocher afin d'observer le fleuve. Sur la berge devant l'onde qui scintillait sous les rayons du soleil, les habitants du village, des fourmis vues d'ici, vaquaient à leurs occupations entre les bâtiments. Soudain, le sorcier en chef repéra les galères en aval du chasse-corbeau. 50 bâtiments au minimum. Des Norukai en un tel nombre? Ce n'était pas pour commercer ni pour livrer des esclaves en échange de vin de sang et de viande de yaksen. Une invasion, voilà de quoi il s'agissait. Depuis quelques années, les esclavagistes venaient à Île Dakar sous prétexte d'y traiter des affaires. Un mensonge dès le début. Leur plan, c'était de conquérir la ville. De quoi faire de sacrées étincelles quand ces pillards tomberaient sur la horde réveillée de son long sommeil. Si son sort n'était pas déjà réglé, Île Dakar n'aurait aucune chance quand de forces sauvages la prendraient en tenaille. Dire qu'il serait en partie responsable du désastre. Pris de vagues remords, le sorcier en chef eut vite fait de les étouffer. Bien installé sur son rocher, il regarda l'armada d'esclavagistes remonter le fleuve en direction de son ancien foyer.